Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis 21h.
Marie Richeux.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
J'ai pris l'habitude de nommer aperçus des bribes de choses ou d'événements qui apparaissent sous mes yeux. Cela ne dure jamais longtemps. Bribes, échardes du monde, épaves qui vont, qui viennent, elles sont apparaissantes mais vont disparaissant. Tout ce qui est visible autour de moi ne m'est pas une aperçue pour autant. Par usage personnel, plutôt que par une quelconque volonté de donner un sens catégoriel défini ou définitif à ce mot, je dis « aperçu » quand ce qui m'apparaît laisse, avant de disparaître, quelque chose comme la traîne d'une question, d'une mémoire ou d'un désir. Il s'agit d'un extrait de votre livre « Aperçu » paru aux éditions de Minuit, Georges Didier Berman, un extrait qui en éclaire la forme et le sens avec cette expression et ce mot de la traîne. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Ça va et vous?
Ça va.
Bienvenue et bonsoir à toi, Marouane.
Bonsoir, Marie. Ça va?
Ben oui, ça va. C'est marrant qu'on se pose cette question. C'est agréable. C'est rare, en fait. D'habitude, on ne me demande pas comment je vais.
Ben alors?
Ben voilà. Ben, tous les deux, vous me demandez comment je vais. Ben ça va plutôt pas mal. Alors, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. Et à cette occasion, je suis accompagnée chaque soir de cette semaine par des étudiants ou des lycéens. Marouane, on s'est rencontrés pas exactement dans le cadre de ce dispositif, mais à peu près quelque chose de cet ordre-là.
Oui, quelque chose comme ça.
Ouais, c'était dans ton lycée à l'époque.
C'était dans mon lycée à l'époque, lycée Sugère à Saint-Denis, donc porte de Paris, où il y avait un dispositif sur toute une semaine où t'es venu avec toute ton équipe et... On avait des ateliers sur lesquels on pouvait discuter. Au final, j'ai pris la parole sur plusieurs de tes émissions et on se retrouve maintenant ici.
Exactement, et ça fait voilà quelques temps que ça se poursuit de temps à autre. On se retrouve avec tes camarades et puis des camarades d'autres établissements. Et donc c'est toi qui interviewe avec moi ce soir. Georges Didier Berman, on avait peut-être suggéré de commencer par une question sur le titre.
Oui, tout simplement votre livre, donc Aperçu. Vous faites une réelle distinction entre aperçu masculin et aperçu féminin pluriel. Donc, pourquoi ce féminin et pourquoi ce pluriel ?
Un aperçu, c'est un vocabulaire un peu scientifique. On se tutoie ou on se vouvoie, Marouane ? Qu'est-ce que...
On peut se vouvoyer.
On se vouvoie, d'accord. Un aperçu, c'est une sorte de synthèse. Et justement, je n'aime pas les synthèses. Je me sens très mal à l'aise avec les synthèses. Je pense même qu'un philosophe, il doit plutôt retarder au maximum le moment de la synthèse ou en tout cas de la conclusion. Alors, moi, je m'intéresse depuis longtemps aux images. Peut-être vous le savez, cher Marouane. Et ben les images, c'est soit des choses qui sont, fixes, accrochées au mur d'un musée ou dans les pages d'un livre d'art, vous voyez. Mm-hmm. Ou bien c'est des choses qui ne sont pas fixes, qui passent. Alors j'ai beaucoup aimé travailler sur des images fixes et j'ai beaucoup aimé travailler sur des images qui ne le sont pas. Je compare ça un peu à des papillons. C'est très beau d'aller à la chasse aux papillons et puis de voir la symétrie des ailes, d'analyser les couleurs, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'il faut tuer le papillon avant. Et ça, ça me fend le cœur. Alors, au fond, je préfère apercevoir le papillon, le voir passer et le voir disparaître, et faire quelque chose avec ce qui est resté en moi de ce mouvement, d'où le mot de traîne. Ça traîne, l'apparition du papillon traîne dans mes yeux, après même qu'il ait disparu. Donc c'est aperçu, alors au féminin, parce qu'il est beaucoup question de femmes. C'est un livre où, sur le désir de voir. C'est un livre qui qui rêve avec avec Baudelaire, avec avec Dante, avec Pétrarque, Laura, Laura de Pétrarque, Laura l'apostrophe ou bien Laura le prénom. Bon, voilà.
Et le pluriel.
Le pluriel, c'est parce que si vous consacrez votre vie à un seul papillon qui est apparu et qui a disparu, vous allez sombrer dans la mélancolie, non? La vie est pleine d'apparitions et de disparitions. Il faut pas seulement parler des personnes. Il faut aussi parler des choses ou des matières ou des couleurs. Voilà, quelque chose qui est devant mes yeux, qui se passe dans le ciel, qui passe. Ouf, ça passe. Ça, c'est une aperçue. Je l'appelle une parce que c'est beaucoup plus joli quand même.
Du coup, vous ne vous contentez pas à un seul objet, que ce soit du coup ce fameux papillon ou une femme dans la rue. C'est vraiment tout un spectre de choses que vous appelez aperçu.
Tout à fait, aperçu. Mais en fait, j'écris des livres très sérieux, plein de notes, Et puis j'aime beaucoup utiliser des chemins de traverse. J'aime beaucoup consacrer peu de temps à quelque chose de minuscule. Je me dis quelquefois que une chose minuscule, il faudrait lui consacrer un roman entier. Voilà. Alors, c'est un genre d'écriture. Je le mets tout ça dans un dossier. Je ne sais pas comment l'appeler, ce dossier. Alors du coup, le mot aperçu, comme précédemment le mot phasme au pluriel, ou le mot phalène. Phalène, ce sont des papillons, et ce qui est très très joli dans phalène, c'est que c'est un mot à la fois masculin et féminin. Donc ça m'intéresse, quelque chose qui passe entre des genres différents, entre le masculin et le féminin. Du coup, ça devient le nom d'un genre. De mon petit genre à moi, que j'ai créé. C'est mon petit genre, est-ce qu'il faut dire littéraire? Mais en tout cas, c'est mon petit genre d'écriture qui traverse mon travail plus systématique. Voilà, j'ai appelé ça aperçu. Si je continue d'en écrire, ce qui est pas sûr, enfin, je sais pas, ça commence. Ben, fatalement, il y aura un autre titre et puis ça, voilà.
C'est quelque chose qui refuse de fixer et de posséder. On sent vraiment, quelle que soit la longueur des textes qui sont publiés dans ce livre-là, aperçu, Georges Didier Huberman, on sent que vous ne voulez pas que écrire possède.
Et je ne veux pas que regarder possède. Parce que très souvent, regarder, c'est
garder.
Regarder. Je vais garder ce que j'ai regardé une fois. Et ça, d'ailleurs, sur la question du désir, sur la question du rapport entre les sexes, c'est très souvent quelque chose de féroce. Je t'ai regardé et je vais te garder. Bon, alors moi, j'ai une position plus fragile, qui est de dire je t'ai regardé, du coup, je ne peux pas te posséder. C'est toi qui me possèdes, éventuellement. C'est toi, c'est ton apparition qui me possède. Mais toi, ça peut être, encore une fois, je parle pas seulement des rapports amoureux. Hein. Je parle des... parce que le désir, il s'immisce à chaque nervure de chaque instant, de chaque geste qu'on fait, chaque regard qu'on pose. Voilà. Hein,
dans ce cas, cet aperçu de la personne, vous en êtes un peu prisonnier au final.
La personne ou de l'objet, je pense que c'est vraiment très important, oui, de dire qu'il n'y a pas du tout dans ces aperçus que des textes qui ont rapport avec des êtres qui apparaissent. Il y a vraiment des sensations, des couleurs, des apparitions, on y reviendra. Oui.
Alors mon souci, c'est de ne pas rendre prisonnier l'autre.
Mais de l'être vous-même, dit Marwan, oui. Peut-être.
Et alors là, vous me posez une question qui me surprend et qui me désarçonne, merci. C'est de savoir si moi, je suis prisonnier. Je ne suis pas sûr parce que le fait d'écrire quatre lignes et puis de passer à autre chose, peut-être m'en libère. Mais je ne sais pas, je réserve ma réponse, mais c'est une très belle question. Est-ce que je suis prisonnier de ces apparitions? Il y a un moment, c'est sûr, comme je vous l'ai dit à l'instant, je me sens possédé. Possédé au sens hystérique. Possédé, comme on est...
habité,
on peut
quoi,
être démonisé par une apparition. J'espère que je m'en libère aussi. Oui, j'espère que je ne suis pas prisonnier de cette apparition.
Dans ce cas, quand vous écrivez, c'est un peu votre séance d'exorcisme.
Eh ben, si c'est ça, oui. D'accord. Merci.
Il y avait autre chose qui te questionnait, Marwan. C'était l'organisation des grands chapitres de ce livre.
C'est ça. Moi, je me demandais, du coup, là, au final, votre livre, c'est vraiment quelque chose qui est assez particulier parce qu'au final, les choses sont pas rangées par ordre chronologique, mais par des grands chapitres, donc temps qui passe, temps qui frappe, temps qui revient et temps qui advienne. Mm-hmm. Et dans ce cas, est-ce que ce serait l'impact qu'ont eu ces aperçus sur vous qui vous ont permis de les classer dans ce livre, ou du moins il y a une certaine échelle d'impressions qui ont eu sur vous qui vous a permis de dire oui, telle chose je la mets ici et telle chose je la mets là.
Alors il y a un premier classement qui est tout bêtement chronologique. Je vais dans un musée, j'ai une expérience particulière devant un tableau ou devant un détail de tableau. Je tombe sur un texte inattendu. Je lui consacre quelques lignes. Et donc ça s'accumule en ordre chronologique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les dater. C'est à la fois inintéressant et peut-être intéressant parce que finalement on voit que ça couvre. Je sais même pas combien d'années ça couvre.
J'ai
pas calculé.
Ans, je crois que c'est plus,
une dizaine
ouais.
d'années
oui.
peut-être
ouais.
ou quelque
un
chose
petit
comme
peu
ça.
Moins, peut-être.
Voilà. Et alors il était hors de question de les classer par ordre chronologique parce que là. Je serais entré dans la forme canonique du journal. C'est pas un journal. Oui, c'est une sorte de journal, mais c'est pas vraiment un journal.
Un recueil, peut-être ?
Ce qui m'intéresse, c'est le montage. Donc, dans le montage, quand tu as un texte sur un tableau de Rembrandt et un texte sur la mort de ma mère, quelles sont les harmoniques qui vont de l'un à l'autre? Alors très concrètement, je me suis pris à plusieurs fois pour classer pour remonter ces bribes, ces petits textes, ces aperçus comme je les appelle, ce qui est la première fois de ma vie que j'ai relu autant de fois des textes de moi. J'aime pas m'en relire, mais là je les relisais pour savoir comment trouver un... Alors c'est assez intuitif, et puis au bout d'un moment on s'aperçoit qu'il y a des blocs. Il y a des blocs autour. Et puis j'ai évidemment pensé que tout ça était lié à la façon dont le temps agit sur notre regard. Donc il y a des temps qui passent, il y a des temps qui reviennent, il y a des temps...
Qui frappent.
Voilà, ouais, voilà. J'ai répondu à votre question ?
Oui, complètement.
Ce que je cherche, c'est des formes nouvelles, des formes un peu audacieuses, des montages où il y a de la syncope, des montages où il y a de l'énergie qui se... Comme un peu du jazz, des fois, le montage, c'est ça. Et puis des fois, c'est comme on essaie de faire plutôt une chose classique, symphonique, pas forcément dodécaphonique. Alors, c'est ça qui fait que je crois que j'ai la chance de faire ce travail avec ce désir-là, de cette écriture, qui fait que ça passe même chez des gens beaucoup plus jeunes. Ils se disent pas, c'est le cinéma académique d'une vieille dame qui a fait ses classes. Là, là. Ils se disent, tiens, il y a une façon de sauter d'un truc à l'autre. Cela dit, je suis pas de mon temps hein, quand je vois les... Tout ce qui se passe comme musique, comme rappeur, comme hip-hop, je vais en voir de temps en temps, mais cette espèce d'énergie qu'il y a dans la musique, dans les groupes, dans les musiciens, je ne suis pas à ce flow-là. Si j'ose dire, ce n'est pas de mon âge, sinon je suis quand même appréciatrice. Mais je me rends compte qu'on peut quand même garder une énergie qui correspond au désir de curiosité, de partage, d'innovation et de rigolade aussi, parce que c'est amusant d'être artiste. C'est amusant d'avoir le droit de faire un collage de deux choses qui ne vont pas ensemble. Tu vois, de se dire, voilà, je fais comme ça, je mets des couleurs que je n'ai pas vues ensemble. Tiens, je passe du coq à l'âne. Et moi, je suis la spécialiste des diversions et du coq à l'âne. Parce que si on n'a pas un peu de surréalisme, j'allais dire, dans notre comportement du réalisme, le réalisme, c'est dur. La réalité, c'est dur. Alors, évidemment, moi, je m'en échappe, c'est un peu facile de dire ça, mais ces échappées, elles sont partageables.
C'est vraiment une forme de rapport à la vie que décrit Agnès Varda dans cet entretien diffusé dans Hors Champ en 2010 sur France Culture. Georges Didier Berman, on choisit de vous le faire écouter, peut-être pour directement, nous aussi, faire du montage avec ce que vous disiez précédemment de votre amour de mettre des choses côte à côte et de voir les harmoniques qui en sortent. D'ailleurs, elle parle elle aussi de musique et
elle
de jazz.
Elle est merveilleuse, hein. Elle parle, c'est magnifique ce qu'elle dit. Alors, ce que j'ai entendu là à l'instant, c'est deux choses. C'est d'abord cet éloge du montage et du fait que ça a à voir avec de l'énergie et du désir. Que cette énergie et ce désir, c'est fondé sur l'autre, l'altérité. C'est-à-dire... Un montage, c'est pas mettre une chose avec juste la chose qui lui ressemble absolument à côté. Ça, c'est ennuyeux. Non, non. Ce qu'elle dit très bien, c'est mettre ensemble deux choses qui ne vont pas ensemble. Et c'est ça.
Et c'est amusant, dit-elle.
C'est amusant. Elle dit c'est surréaliste. Moi, j'ai consacré un petit texte à la fameuse expression de Lautréamont, beau comme la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection, qui est aussi une table de montage, hein, puisque disséquer, c'est séparer. C'est ce qu'on fait au cinéma. Hein, on sépare les rushs. Enfin, on séparait. Alors, la deuxième chose qu'elle dit, c'est je ne suis pas de mon âge, je ne suis pas de mon temps.
Je ne suis pas de mon temps et ce n'est plus de mon âge.
Ce n'est plus de mon âge. Ah ouais, très joli. Très joli et en même temps, puisque je me trouve en face, donc Marwan, tu as quel âge ?
J'ai 18 ans.
18 ans et je ne vous demande pas, Marie, et votre âge, mais voilà, il paraît qu'on ne fait pas ça.
Bah si,
mais en tout cas, nous sommes de temps différents.
Personne ne veut savoir quel âge. En tout cas, on est tous les trois d'âge différent.
Oui, voilà, nous sommes d'âge différent.
On peut dire qu'il y a Romain qui est à peu près de mon âge.
Oh, oui, absolument. Alors, cette différence d'âge, en fait, elle compte et elle ne compte pas. Parce que vous, Marwan, tu as 18 ans, mais c'est bien possible que... Un jour ou l'autre, si ce n'est déjà fait, tu sortes de ta bibliothèque un livre de Platon, quoi. C'est très très vieux, Platon. C'est beaucoup plus vieux qu'Agnès Varda. Donc, ce qui est beau dans ce qu'on appelle la culture en général, c'est qu'elle est complètement anachronique. C'est qu'on peut très bien lire Platon et ensuite lire Deleuze et écouter du Iggy Pop ou je ne sais qui, ou des gens que je ne connais pas, que je connaîtrais. Que vous pourriez me faire connaître, vous qui avez 18 ans, et que ça, c'est pas un problème. Parce que justement, le montage dont parlait Agnès Varda, il faut le penser aussi dans le temps. Notre pensée, c'est du montage dans le temps.
Peut-être que le montage, ça permet de rendre les choses éternelles ?
Moi, j'aime pas le mot éternel. Parce que rien n'est éternel. Éternel, ça veut dire qu'il ne meurt jamais. Et je pense que les choses, malheureusement, et les gens meurent. Mais j'aime bien le mot survivance. C'est différent. Alors, survie, c'est quelqu'un qui... Tout le monde est mort autour de lui et il a survécu à un accident, par exemple. Mais survivance, c'est différent. Survivance, c'est... il y a eu de la mort, mais il y a quelque chose qui est resté, un peu, si tu veux, comme un... Oh, pardon, je vous ai tutoyé,
mais bon, on
peut commencer à te tutoyer. Et... comme une braise qui serait encore là sous la cendre. Il y a la cendre. C'est-à-dire, il y a des choses qui disparaissent, il y a des gens qui détruisent d'autres gens, il y a des civilisations entières qui sont détruites, il y a... l'histoire est une histoire de destruction. C'est donc une histoire de cendre. Et si on s'arrête à la question de la catastrophe, tout est foutu, on a tout perdu, etc., là, ça va pas. Il faut voir... c'est pour ça qu'il faut être archéologue. Il faut creuser, et si tu creuses, il y a encore une braise qui est rouge.
Moi, ce qui m'intéresse dans la manière dont vous relevez l'âge chez Agnès Varda et dont vous en faites, comme à votre habitude, un miroir rigolo pour ce que nous sommes en train de vivre, nous, ici dans ce studio,
oui.
C'est une manière de rendre les choses souvent très présentes, c'est la liberté. C'est-à-dire que ce que j'entends, moi, chez Agnès Varda, qui dit « ce n'est plus de mon âge » ou « je ne suis pas de mon temps », je l'entends comme une façon de dire le contraire de ce qu'elle dit.
Complètement.
Moi, j'entends une femme qui dit « tout est permis ». Tous les montages sont permis. Je suis de tous les âges et je suis de tous les temps et c'est ce que me permet le cinéma. Et c'est aussi ce que nous nous permettons en discutant de textes qui sont montés selon autre chose que la chronologie et en mélangeant les âges autour de cette table-là. Moi, j'entends cette liberté-là.
Tout à fait. Vieillir, comme ça nous arrive absolument à tous, hein, bien sûr, vieillir, il y a quelque chose qui se passe quand on vieillit. D'abord, il me semble, les yeux restent clairs, les yeux restent brillants. Hein, la peau se fripe, t'as les cheveux gris, puis blancs, tu te voûtes, etc. Bon, les yeux, ça vieillit moins, tu vois. Et le désir, c'est pareil. Le désir, je pense, je dis le mot de façon très générale. Ce qui est clair dans ce qu'on a entendu d'Agnès Varda, c'est qu'elle n'a pas perdu son désir, mais rien. En ce sens, elle est la contemporaine de Marouane. Tout à fait.
Qui disait juste avant l'émission, j'espère ne rien dévoiler Marouane, mais tu disais, j'ai l'impression que le temps passe trop vite et qu'il n'y en a pas.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps. J'ai l'impression que c'est juste tout qui passe et le temps fait de nous ce qu'on est en fait. Et soit on l'attrape, soit il nous emporte.
Moi, j'ai pas cette impression que tout passe. Parce qu'il y a des choses qui, comme on dit, quand tu digères mal, quoi, ça ne passe pas. Quoi. Quand ça reste coincé dans ta gorge, l'os de poulet, ça ne passe pas. Il y a des choses qui ne passent pas non plus, tu vois. Donc, le temps, c'est des choses qui passent, mais... alors moi, j'ai beaucoup lu la psychanalyse, c'est important pour moi. Donc, il y a des choses... qui sont refoulées, on croit qu'elles sont passées, mais non, elles sont là. Elles attendent la moindre occasion pour ressurgir comme des symptômes. Par les temps qui courent,
Marie Richaud. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, clandestines, différentes entraînants, et qu'on ne retrouve jamais, à celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presto s'évanouit. Mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la campagne de voyage, dont les yeux charmants paysages font perdre tout le chemin. Connais-tu peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré sa main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent. Vous ont inutile folie, laissez voir la mélancolie de d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérances d'un jour de soleil, vous serez dans l'oubli demain. Pour
C'est pas sûr. Parce que là, on entend un hip hop qui dit « Vous serez dans l'oubli demain ». Mais si on suit votre texte, Georges Didier Berman, ou vos textes dans ce livre aperçu, je suis pas certaine que les choses seront dans l'oubli demain. À l'inverse, peut-être.
D'autant moins qu'il a enregistré cette chanson. Et qu'elle est magnifique. Et qu'elle est, de façon surprenante, si douce.
Mmh.
Ouais, c'est cette douceur liée au motif de la passante. Mais c'est magnifique. Donc, pour reprendre le fil de notre conversation, le temps ne fait pas que passer et disparaître. De toute façon, s'il passe, on le voit apparaître. Et s'il disparaît, il laisse quelque chose. Dans cette disparition même, il laisse quelque chose. C'est ce quelque chose qui est intéressant, je pense.
Et dans ce cas-là, il laisse des nouveaux écrits. Dans ce cas-là, puisque...
Alors, il laisse des traces. Les écrits sont des choses incroyablement solides. Tu vois, ce livre, il va résister. L'encre, le papier va rester pendant... Je suis frappé, moi, par la solidité des livres. Ça me frappe. Je vais très souvent à la bibliothèque, donc je lis des livres très anciens. Ils ont bien, bien, bien résisté, quoi. C'est incroyable. Donc le livre est une sorte de fixation de ce que nous sommes en train de dire. Le livre, il imprime, mais pour imprimer, il faut d'abord écrire des phrases. Je dis bien des phrases et non pas des mots. Essayer de respecter la forme de cette chose qui traîne après une disparition, qui est apparue, qui a bientôt disparu, mais qui a laissé quelque chose. Il revient à la phrase, et non pas aux mots seulement, à une phrase, trouver une phrase qui soit dans le style de cette apparition. C'est pour ça, moi, j'aimais beaucoup cet animal, le phasme, parce qu'il imite cela même qu'il est en train de manger, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut à chaque fois devant... C'est-à-dire, on ne peut pas écrire la même chose avec le même style, avec la même phrase, selon qu'on est devant un tableau de Rembrandt ou dans le métro, voir une zigane qui passe et qui fait la manche. On ne peut pas avoir le même style exactement.
Mais dans ce cas, pourquoi avoir le besoin d'écrire ces aperçus? Puisqu'au final, ces aperçus sont, comme vous l'avez dit, des images qui traînent.
Oui.
Et dans ce cas, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser le temps, laisser les traîner autant?
Alors, ça vient peut-être d'une culture fondamentale chez moi, qui est l'idée... qu'on trouve chez un très grand penseur que j'aime beaucoup, qui est Walter Benjamin, que si on veut rendre justice, c'est pratiquement une question de justice, il faut savoir nommer. Il faut savoir nommer même ceux qui n'ont pas de nom. Il faut savoir nommer ce type qui a fait des photos du Sonderkommando d'Auschwitz, il n'avait pas de nom. Maintenant, j'ai trouvé qu'il avait peut-être un nom. Enfin, j'ai trouvé peut-être son nom. Le fait de le rappeler, le fait, donc, d'une certaine façon, de le graver dans une stèle. Un livre, c'est une stèle. D'autant plus qu'un livre, ça se reproduit. Donc, si on détruit cet exemplaire-là, il en restera peut-être bien un autre ailleurs, voilà. Un livre, c'est une stèle, c'est-à-dire être justement entre ces deux états du temps, qui est de laisser au temps sa liberté de passer. Et bien sûr, il faut oublier. Il y a plein de choses qu'on oublie, et c'est très bien d'oublier, etc. Et puis, des choses qui nous tiennent et qui nous reviennent, en fait, plutôt. Elles nous reviennent, malgré nous. C'est l'inconscient. L'inconscient, c'est du temps. C'est du temps qui revient. Et ça, il faut le phraser, parce que si on s'intéresse aux images, les images, c'est ça. Les images, c'est ça. Qu'il s'agisse d'une image œuvre, ou d'une image littéraire, ou d'une image mentale, ou d'une image de rêve.
Et justement, des images, elles sont à la fois rendues et créées par les phrases dont vous parliez, Georges Duberman, mais est-ce qu'il y a des images faites? Est-ce que ces aperçus
faites,
sont...
F-E, accent circonflexe.
Oui, j'aimerais bien, mais non. Faites,
des images faites, le fait
de les faire. Est-ce que vous avez fait des photographies, par exemple? Est-ce que c'est sous-tendu par des photographies, ces aperçus?
Ah, ça, c'est une très très bonne question, parce que vraiment, moi, je fais autant de photographies que j'écris. Hein. Je fais des milliers de photographies, vraiment. Surtout quand je voyage. Quand je voyage et que... Alors, c'est pas pour prendre des photos de vacances, spécialement, encore que, mais c'est surtout quand je ne suis pas dans la possibilité d'écrire tranquillement chez moi, je fais beaucoup, beaucoup de photographies. Pour moi, un cadrage, c'est une sorte d'esquisse de phrase. Et donc, de ces textes nommés aperçus, une grande majorité, ce sont des descriptions d'images que j'ai vues ou que j'ai faites.
Donc l'image paraphrase vos écrits.
C'est marrant, tu le prends à l'envers.
Oui, c'est exactement intéressant. C'est l'écrit. Alors, c'est une tentative. Je pense que ce livre, ça doit être le premier livre que j'ai publié où il n'y a pas une seule image. Tous mes livres sont sur les images. Il y a toujours une image qui... Et d'ailleurs, quand j'écris un livre, je fais d'abord le montage des images. C'est très cinématographique, justement. Et le phrasé, comme je le dis, c'est comme exécuter quelque chose qui a été préalablement monté en bout de texte et surtout en images. Ici, on voit pas une seule image et pourtant, il y a beaucoup d'images. Par exemple, je me souviens d'un texte qui décrit le cimetière juif de Prague. Et en fait, ce texte où je donne aux tombes, aux stèles de ce cimetière, des espèces d'affects, je leur imagine des émotions. Ben, chacune, c'est une image que j'ai faite. Voilà. Très important, la photographie. Benjamin disait, il faut que les photographes sachent écrire. Il ajoutait, il faut aussi que les écrivains sachent photographier. Et je prends ça très au sérieux.
J'ai senti, moi, passer dans ce mot aperçu, ne serait-ce que dans le titre, et y compris dans le livre, beaucoup d'espace, beaucoup de choses qui circulent, et aussi beaucoup de rues. Alors qu'il y a bien, des moments où presque on vous voit beaucoup plus être dans une bibliothèque ou à un bureau, mais pourtant, moi, j'ai vraiment senti la rue. Oui. Et deux choses m'arrivent là, à la fois des personnes, des visions, des choses qui rentrent et sortent de votre champ de vision dans la rue, et le masque que vous vous découvrez porter le jour de la mort de votre mère, où quelqu'un dans la rue vous aborde et où vous souriez. Et d'un seul coup, ce texte aperçu dit combien est-ce qu'il y a aussi une sorte d'aperçu faux, quoi. Je ne sais pas si je...
Oui,
c'est-à-dire que la personne qui vous aperçoit ce jour-là, elle vous aperçoit à un endroit masqué.
Oui, je pense que quand on parle de son désir de voir, qui est aussi un désir de comprendre le monde, il faut partir de son corps. Dans le petit livre que j'avais écrit qui s'appelait Écorce et qui décrivait justement une déambulation dans l'espace de Birkenau, en fait, il fallait que je parte de ma propre taille, qui est petite, et de ma propre condition optique, c'est-à-dire que je suis assez myope et que donc je suis plutôt voûté et que je regarde plutôt vers le bas. Je suis parti de ça, de mon corps. Là, dans l'exemple que vous donnez, je parle de quelque chose qui m'a considérablement gêné pendant des années. C'est le sentiment de devoir avoir un masque, c'est-à-dire d'être poli, en fait. Et je suis de plus en plus en colère contre cette politesse qui est pourtant nécessaire, hein, bien sûr. Donc, je me souviens avoir souri et avoir dit « ça va, je sais plus exactement, mais ça va, oui », alors que j'avais ni envie de sourire et que ça allait pas du tout. Et ça dit quelque chose sur les chemins de l'émotion. Ça dit pas quelque chose sur moi. C'est très, très, beaucoup plus vague. J'ai pas envie de parler de moi seulement, mais ça dit quelque chose sur les chemins de l'émotion. Or, attraper une aperçue, pouvoir la phraser, c'est ne pas tricher sur son émotion, si possible.
J'écris en ce moment plus d'aperçus que de coutume, et c'est peut-être pour cela que je me souviens mieux de mes rêves. La nuit dernière, donc, je suis convié à une conférence de Jacques Lacan. Tiens, me dis-je, je croyais qu'il était mort depuis longtemps. Et pourtant, il est là. Avec tout de même cette chose bizarre qu'il n'a pas la même tête que d'habitude. Non, ce n'est pas son visage. Mais c'est bien lui quand même. La conférence commence avec son style caractéristique. Souvenir probablement de séminaires auxquels j'ai réellement assisté au milieu des années 70. Je me souviens soudain, écrivant ces mots que j'ai promis par amitié pour Mathilde, d'aller écouter demain, 10 novembre, une table ronde au sujet de la nouvelle revue de psychanalyse, ce qui ne m'excite pas outre mesure. Rien d'essentiel, d'abord, ne me semble être dit par Lacan. Le temps passe, mais j'ai confiance. J'attends toujours quelque chose de cette parole. À un moment, me prend l'envie de pisser. Je quitte donc la salle de conférence. L'urinoir est une terre cuite ancienne, mexicaine, ou une imitation, comme on trouve cela dans le design de certains hôtels faussement luxueux. Quand je quitte les toilettes, la conférence vient de finir. Zut alors. Quelqu'un me dit que Lacan vient juste de donner une conclusion absolument sublime à sa conférence. J'aurais donc raté la parole de vérité que j'espérais tant. Je demande tout de même quelle était cette conclusion et voici ce qu'on me répond. Il a dit pour finir, « Rendre visible, c'est porter secours. » J'ai oublié la suite. La phrase, comme d'habitude chez Lacan, était plus compliquée, mais dans ce cas, sa fin n'infirmait pas son début. À ce moment, je regarde Lacan. Il est très heureux, il est entouré d'une troupe de danseuses, mexicaines. Il sourit de toutes ses dents et, en souriant, il retrouve son vrai visage de Lacan, tout en passant par certains stades, dont peut-être le visage d'Henri Guénaud, à cause des dents, et celui de Toby Nathan, à cause de l'aisance. Vers la fin du rêve, je me dis qu'il faut absolument que je me souvienne de cette phrase si importante. « Rendre visible, c'est porter secours. » Pourquoi si importante? Pour le rêve dont elle fait partie? Pour le rêve dont elle me fait part?
Georges Didier Huberman, c'est l'un ou l'une des aperçus, donc on dit l'une alors.
Une, oui.
L'une des aperçus qui oui. est présente dans ce livre que vous publiez aux éditions de Minuit. On est toujours avec Marouane et Romain de Bec de Lièvre pour en discuter avec vous. Peut-être vous demander si les aperçus, apparitions, ont le même statut, la même saveur dans les rêves que dans ce qu'on appelle le réel.
D'abord, merci de cette lecture, Romain. Je crois qu'à partir du moment où vous écrivez l'une ou l'autre chose, c'est-à-dire une chose que vous avez vue dans la rue, une chose que, dont vous vous souvenez de la nuit dernière, sur le papier, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Je suis surpris que vous ayez choisi cet aperçu-là, mais pourquoi pas? Alors, je précise.
Parce que c'est rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rêves dans vos aperçus.
C'est vrai. Mais je précise que c'est un document, c'est-à-dire que je n'ai pas menti. En tout cas, je n'ai pas menti sur mon souvenir de ce rêve. Puisqu'on parle en public, là, on est sur une chaîne de radio. Il faut que je précise que, sans doute, le souvenir de certains séminaires de Lacan m'a laissé une très grande angoisse. J'étais très lacanien quand j'étais jeune, mais d'assister à ces séminaires vers la fin de sa vie, je parle d'angoisse parce que je sentais qu'il était tellement adulé qu'il était donc haï. Et ça s'est confirmé d'ailleurs dans les années successives de sa mort, où on a vu beaucoup de gens qui l'avaient trop aimé, bah, trop le haïr. C'est pénible, ça, c'est pas juste. Il faut que je précise aussi, puisqu'on est sur une chaîne publique, que dans la Nouvelle Revue de Psychanalyse, c'est un endroit que j'ai beaucoup aimé, où j'ai un peu travaillé. Pontalis a été un très grand lecteur pour moi, donc mais voilà, j'ai dit et puis ce qui est éventuellement intéressant là-dedans, c'est que la vérité, ça s'attend, ou c'est déjà passé. Elle est déjà passée, ou alors on l'attend indéfiniment. Il y a quelque
chose.
Et le
temps d'aller aux toilettes, le temps peut-être elle nous échappe.
Elle disparaît, c'est trop tard. Oui, alors voilà, c'est ça. Et c'est, y a quelque chose à voir avec des souvenirs très anciens ou des choses liées en fait au messianisme, à la question du moment de l'avenue du Messie. Je dis ça par référence toujours à Walter Benjamin, hein, qui laisse toujours cet horizon là.
Alors, est-ce que vous pouvez préciser?
Quand le temps sera-t-il rempli? C'est ce que pose comme question Walter Benjamin à un moment très tôt dans son travail. Il était jeune, c'était déjà en 1907, si je me souviens, dans un texte sur où il est question du drame baroque allemand et de la tragédie. Il dit, dans la tragédie, le temps n'est pas rempli. Bon, je pense qu'on vit dans ce moment-là. On vit tragiquement. On vit dans un moment non rempli. On rêve d'un temps rempli, tu vois, d'un temps qui serait... Et puis non, ça n'arrive jamais. Et en fait, le temps n'est autre que l'attente de ce temps.
Peut-être
pour aller très vite. Hein,
peut-être l'attente de Madame Opportunité.
Madame Opportunité, oui, exactement.
Parce que dans les premières lignes, oui, de votre livre, vous décrivez Madame Opportunité comme... Comme cette chose qui a le visage voilé et qui passe voilée, une mèche de cheveux qui couvre son visage et qui passe devant l'homme et qui est là juste pour passer, un peu comme inaperçue, et partir aussitôt.
Oui, c'est l'occasion. C'est d'ailleurs un concept très important chez Lacan, la tuque, c'est l'occasion. C'est ce qui arrive sans crier gare, c'est ce qui repart sans crier gare, et donc c'est ce qu'il faut savoir ne pas la rater. De toute façon, on la rate, mais c'est ce qu'il faut savoir ne pas oublier. Voilà, peut-être quelque chose comme ça.
Je trouve que quand même on passe complètement sous silence l'autre chose que je trouve assez intéressante dans ce rêve, c'est la phrase.
Oui.
Je trouve que c'est quand même dommage de complètement se dire que cette phrase, elle est apparue, l'a aperçue, et même on s'en est souvenu. Aussi bien que peut-être que si cette phrase n'avait pas été dite dans votre rêve, peut-être ce texte n'aurait pas existé, Georges Didier Berman.
Oui, mais d'ailleurs très souvent, je me souviens de début de phrase et pas de la suite.
En l'occurrence, ça m'arrive très souvent. Rendre visible, c'est porter secours.
Oui, mais il y avait une suite, tant pis pour la suite. L'association entre rendre visible et porter secours, elle est quand même assez mystérieuse, y compris pour moi. Mais je pense qu'on, si je me suis permis de la livrer au lecteur, c'est que je pense qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans, qui m'échappe moi-même. Rendre visible, porter secours. Je reviens, pour ne pas le quitter, comme ça sera plus clair aux auditeurs, je reviens à Walter Benjamin, hein, c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que si je rends visible quelque chose qui avait été méprisé, mis sous le boisseau, refoulé, oublié, injustement, alors déjà je porterai secours à la mémoire de ce qui a été oublié. Voilà.
De manière plus pragmatique, c'est mettre en évidence ce que vous pensez d'injuste.
Donc, l'idée de sauver, c'est l'idée, au fond, de réparer un tout petit peu une injustice. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Et là aussi, c'est une obsession chez Benjamin. c'est en train de devenir une obsession chez moi, c'est-à-dire que faire de l'esthétique, s'occuper d'art, d'images, etc., ça ne vaut rien si on ne se pose pas la question de ce qui est juste, de la justice. La justice, quelquefois, elle contredit même le droit. C'est bien la question de la tragédie. Hein. Antigone, elle a une juste demande. Elle veut pouvoir enterrer correctement son frère mort. Et puis, il y a une loi qui dit le contraire. Hein. Donc, il y a une opposition entre un certain sens de la justice et une loi existante. Ben, c'est une grande partie de la politique.
Et rendre visible, pour vous, ce serait rendre lisible. Ça peut passer par le fait d'écrire.
Alors, lisible, visible. Quand j'étais plus jeune, je faisais une grande opposition entre les deux. Ça me servait à critiquer la réduction des images à un message ou à une iconographie, alors à un thème qui a été traité dans la littérature, et hop, on le retrouve chez Botticelli. Donc le mot lisible m'énervait, sauf que j'avais pas vu bien que dans lisible, il y a le ible comme dans visible. C'est la terminaison Barkeit en allemand. Ça veut dire que c'est possiblement, il y a une possibilité. Ce qui est lisible, ce n'est pas ce qui est lu, c'est ce qui est possiblement à lire. Du coup, grâce à toujours, on va faire toute cette émission comme hommage à Benjamin, en lisant comment Benjamin lui-même construisait un concept de lisibilité, Lesbarkeit, la lisibilité. Et il disait, lire des choses qui n'ont même pas été écrites encore. C'est magnifique. Bah, c'est ça mon travail. C'est lire des choses qui n'ont pas été écrites.
Et les écrire.
Bien sûr, bien sûr. Parce que si je ne savais pas si je devais vous voyer ou vous tutoyer, mais enfin, si vous les laissez dans le néant, dans l'oubli des autres, dans l'absence de transmission à toi, c'est perdu, c'est dommage.
Est-ce que vous ne pensez pas que transmettre des aperçus qui, en apparence, n'ont pas de message, les transmettre à justement ma génération, c'est leur donner la clé de ce que vous ou toute une autre génération n'a pas su trouver.
Mais je pense que là, vous posez une question et la personne qui devrait répondre, c'est vous-même, je pense. La question, c'est moi quand n'importe qui, hein, tu écris, tu sais pas du tout comment tu vas être lu, et notamment ce livre, je tremble un peu parce que il n'est pas construit de façon, il y a pas de thèse, il y a mille vermisseaux, mille ramures, mille ruisseaux, que sais-je, qui vont ici et là, mais c'est pas construit de façon très très puissante. C'est erratique. Donc, alors, est-ce que ça va arriver vous êtes en face de moi, donc c'est déjà arrivé à vous. Comment ça arrive, ça, je sais pas. C'est à vous de phraser votre lecture. Comme moi, je phrase ma lecture de Benjamin, par exemple. J'essaye de phraser qu'est-ce que je lis dans Benjamin ou dans Ernst Bloch. Là, je suis en train de relire Ernst Bloch. C'est magnifique. Ouais, voilà.
L'image sonore optique pure, c'est tout ce que vous voulez sauf l'œil d'un spectateur. C'est pas non plus l'œil d'un acteur. Quelle était la nouvelle race d'hommes? Qu'est-ce que c'était ces étranges hommes de la balade? Ces hommes à qui n'appartenait pas l'événement qui leur arrivait? Qu'est-ce que c'était tout ça qui faisait à la fois et le nouveau roman et la nouvelle vague? Et donc, Rome-Grillet disait, dans ce réalisme nouveau, il n'est donc plus du tout question de vérisme. Le petit détail qui fait vrai ne retient plus l'attention du romancier dans le spectacle du monde ni en littérature. Ce qui le frappe, le romancier, et que l'on retrouve après bien des avatars dans ce qu'il écrit. Ce serait davantage au contraire le petit détail qui fait faux. Ainsi déjà dans le journal de Kafka, lorsque celui-ci note les choses vues pendant la journée au cours de quelques promenades, thème de la balade, de la promenade, il ne retient guère que des fragments non seulement sans importance, on pourrait le dire du néo-réalisme, mais encore qui lui sont apparus coupés de leur signification, donc de leur vraisemblance. Depuis la pierre abandonnée sans qu'on sache pourquoi au milieu d'une rue, jusqu'au geste bizarre d'un passant, geste inachevé, maladroit, ne paraissant répondre à aucune fonction ou intention précise. Des objets partiels ou détachés de leur usage, des instants immobilisés, des paroles séparées de leur contexte, ou bien des conversations entremêlées, tout ce qui sonne un peu faux. Ils jouent comme si leur geste était retenu par du coton. Ils se courent après, ils se tirent des coups de revolver. Chaque geste est faux, tellement ils tirent avec maladresse. On n'a jamais vu des gangsters aussi maladroits. Est-ce que c'est pas comme ça dans la vie ?
Une archive qui demande « Est-ce que c'est pas comme ça dans la vie ?» qui finit par se demander ça, c'est la voix de Gilles Deleuze. On est en 1982, c'est un enregistrement qui est fait à l'université Paris 8. À l'époque, cette université où tu
étudies,
puis dans le même lieu maintenant, Marouane, mais en exactement. Écoutant la chaîne, tu dis « Est-ce que je peux poser une question ?»
Oui, quelque chose qui m'a complètement frappé dans ce qu'a dit Gilles Deleuze, c'est que il y a des choses qui n'ont pas de sens. Et je voudrais savoir s'il y a des aperçus qui n'en ont pas, qui sont juste des pures images et qui, au final, sont là juste pour témoigner d'un réel, et c'est tout.
Alors, moi, j'ai des questions à te poser.
Je vais vous laisser. Je me suis dit, en préparant l'émission hier, vraiment, je vous l'avoue, hein, j'ai dit, je pense qu'à un moment donné, je vais devoir sortir du studio.
Mais non, et puis, je vais surtout pas, ni Romain, restez. Mais, par exemple, j'aimerais demander à Marouane si, comment il ressent l'intonation de la voix et la façon dont Deleuze parle le français, par exemple. Parce qu'on parle plus du tout comme ça. Ça te frappe pas?
Si, mais je trouve que Gilles Deleuze a une verve, c'est vraiment magnifique, et il a cette manière de parler extrêmement vite. Plus récemment, j'avais fait hors studio une comparaison avec Romain en disant que lorsque je vais en cours et que il y a un cours magistral devant moi, j'ai l'impression qu'on me mitraille à coups de balles de savoir. Et que je dois essayer de les attraper les plus vite possible. Et ben avec Gilles Deleuze, c'est un peu ça. J'ai l'impression de devoir attraper des balles remplies de savoir, mais qui sont parfois peut-être hors de mon champ de vision, et que du coup je rate. Et du coup, c'est un peu l'impression que j'ai avec Gilles Deleuze. J'ai l'impression qu'il faut que j'attrape le plus vite possible tout ce qui est à ma portée.
Bon, il faut faire confiance. Je pense que une des grandes choses concernant le rapport à la philosophie, soit que tu ouvres un livre, tu comprends rien. Hein, c'est souvent le cas. C'est arrivé absolument à tout le monde et ça continue d'arriver à tout philosophe. Hein, tu ouvres un livre de philosophie, tu comprends pas. Il faut absolument faire confiance. Il faut attendre. Tu sais que tu rates, mais tu continues. Parce que le ratage, ça, il y a bien un moment où ça va t'atteindre. Et je réponds à ta question. Est-ce qu'il y a des aperçus qui n'ont pas de sens? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens? La réponse, peut-être, hein, j'improvise là. Mais la réponse, ça serait une chose dont tu as l'impression qu'elle n'a pas de sens, c'est parce qu'elle en a trop. Trop de sens. Alors il faudrait mettre un 2S à la fin. Enfin, c'est parce qu'il y a plusieurs sens. Il y a trop de sens. Il y a des sens qui se contredisent. Il y a des sens qui jaillissent comme un feu d'artifice. Voilà. Donc, Gilles Deleuze, c'est très feu d'artifice. Hein. Alors, moi, je peux faire un petit commentaire de ce que je viens d'entendre. Hein. C'est frappant parce que Il parle de la balade, et donc ça évoque la dérive dans la rue, tu marches, tu... Voilà, ça, moi, je pense plus à Pérec qu'à autre chose en entendant ça. Et quand tu te balades, tu as accès à 1000 choses différentes. Donc tu as accès à la différence, d'accord ? Balade, en même temps, c'est un mot musical. La balade, c'est un style musical, c'est un style de chanson, et donc tu ne peux pas ne pas penser à la ritournelle, qui a été un grand thème de Deleuze avec Guattari, c'est-à-dire cette chanson qui revient sur elle-même. Et là, tu as ce que Deleuze appelait au début de son œuvre la répétition. Tu as donc, entre la balade et la ritournelle, tu as la différence et la répétition. Entre la différence et la répétition, deux grands thèmes philosophiques. Alors, son livre est extrêmement difficile, mais il est en même temps plein de ces feux d'artifice dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, là, on a toute la philosophie du temps. Tu as des choses nouvelles et tu as des choses qui reviennent. Ben, il faut faire avec. Il faut faire avec la dérive, mais dans la dérive... Tu ne vas pas seulement dans des lieux nouveaux, tu vas dans des lieux où tout à coup, tu vois revenir quelque chose. Il y a quelque chose qui te revient, voilà, dans tous les sens du mot.
Je vous voyais regarder l'horloge.
Oui.
Parce que c'est la fin.
Ben, malheureusement.
Merci infiniment, Georges Didier Huberman. Le titre de votre livre, c'est « Aperçu ». On l'aura beaucoup déplié.
Oui.
Il paraît aux éditions de Minuit. Et un grand merci à toi, Marwan.
Merci à toi,
vous,
Marie.
Merci beaucoup, merci à Romain aussi.
Seul, yes, seul. C'est d'ailleurs seul. Ça se tient dans ça, yes, ça.
Par les temps qui courent, que trouvez-vous léger?
Pas moi.
Par les temps qui courent, est-ce que les choses vont trop vite?
Certaines oui, et puis d'autres non. Alors là, il faudrait quelques heures pour vous expliquer de quoi je parle.
Par les temps qui courent, quel livre garder ouvert?
Ah, en ce moment, j'ai ouvert devant moi « Héritage de ce temps » d'Ernst Bloch, qui est un livre sublime que je relis d'ailleurs. Je l'avais déjà lu, mais c'est un livre difficile aussi, mais un peu fou. Qui explique le temps qui court quand on est en 1935, c'est-à-dire pourquoi Hitler est en train de gagner, ou a déjà gagné.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h à l'antenne, et quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast, si on a prévu un cours de podcast pendant quelques secondes pour Georges Didier Huberman. Au son ce soir, c'était Marie Le Peintre, Lise-Marie Barré à la réalisation, Jeanne Aléos, Corinne Amaré, Romain de Bec-de-Lièvre m'aident à penser cette émission. Et quant à moi, je réponds @ Marie Richeux sur Twitter.
Je veux revenir un peu mieux que les mots le font. Je vais revenir, c'est sérieux, demain par avion. Oh, quel dommage que tes messages ne me soulage pas davantage. Oh, quel dommage que tes messages ne me soulagent pas d'avant. Oh, quel dommage que tes messages ne me soulagent pas davantage. Oh, quel dommage que tes messages ne me soulagent, ne me soulagent. Oh, quel dommage que tes messages ne me soulagent pas davantage. Oh, quel dommage que tes messages ne me soulagent pas davantage.